Le curling en fauteuil roulant, seule discipline mixte aux Jeux paralympiques d'hiver, est un sport peu connu dans la belle province, malgré toute l'expertise des Québécoises et Québécois en la matière. Cet écart de popularité entre les provinces crée certaines tensions au sein du sport. On en apprend plus dans un instant au Signal. Carl Marquis est médaillé de bronze du championnat canadien de curling en fauteuil roulant pour l'équipe du Québec. Avant de se rendre sur les patinoires, il a excellé dans plusieurs autres sports sur la scène internationale, notamment en athlétisme. Donc, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va s'attarder au curling en fauteuil roulant à l'orée des Jeux paralympiques. On continue de faire notre petit tour d'horizon des différents sports qui vont être à l'honneur. Merci, Carl, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Merci à vous.
Parce qu'effectivement, le curling en fauteuil roulant, on ne peut pas dire que c'est le sport qui reçoit la plus grande attention médiatique au Québec ces jours-ci, ou même en général.
Oui, effectivement, hein, le hockey prime pas mal au Québec, mais de mieux en mieux, là, les adeptes du curling, il y en a de plus en plus. Ça prend de la oui, un peu plus de monde.
Qu'est-ce qui vous a motivé, si on vient à votre parcours personnel à vous, de passer d'un sport à l'autre, de faire la transition vers le curling en fauteuil roulant?
En fait, l'athlétisme, ça a été mon sport pendant plusieurs années, là, au moins 16 ans, là, sur membre de l'équipe nationale en athlétisme, fauteuil roulant, donc 400, 800, 1500 mètres. Et là, j'avais plus ou moins pas mal accroché mes roues internationalement parlant. Je reçois un coup de téléphone, quelqu'un me dit, quelqu'un qui fait du tir à l'arc, là, Lynn Tremblay, pour pas la nommer, ouais. En tir à l'arc, me dit « Ah, Carl, dit, on est la seule province au pays de pas avoir de représentant, pas avoir d'équipe curling fauteuil roulant. » Alors, j'ai dit « Bon, ben écoute, possiblement. Curling, c'était pas un sport qui m'impressionnait parce que évidemment c'est pas aussi actif que l'athlétisme. Mm-hmm. Mais je suis allé puis goûter un peu à ça là, lors de cette fameuse journée-là là, qu'elle me mentionnait. Et j'ai accroché. Alors je suis là depuis plusieurs années. C'est un jeu d'échecs sur glace. Alors il y a vraiment l'intellectuel en moi qui a peut-être un goût qui a accroché. Puis au niveau sportif, évidemment, il y a des éléments nécessaires pour performer que j'avais, donc ça m'a plu, alors je suis là depuis ce temps-là.
Ça, c'était en 2008, donc ça fait quoi, 9 ans maintenant que vous pratiquez le sport?
Exact.
Uh-huh. Et au début, donc, vous l'avez dit vous-même, vous étiez un petit peu sceptique vis-à-vis de ce sport-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez finalement été accroché puis que vous avez développé le goût pour le curling en fauteuil roulant? Vous avez parlé de jeu d'échecs sur glace, là.
Oui, ben c'est ça. Alors, le sport, le curling, je vais un peu le décrire un peu ce que c'est. Là, c'est une glace un peu comme le hockey, mais évidemment loin de la glace qu'on retrouve dans les arénas. C'est une gouttelette d'eau qui est envoyée sur la glace, qui est pratiquement nue, là, et cette gouttelette d'eau-là cristallise, alors, elle fait comme une espèce de petite bosse. Alors, c'est des milliers de petites gouttelettes d'eau qui ont été envoyées sur cette glace-là, et ce qui permet d'envoyer une pierre qui, elle, a, évidemment, cette pierre-là a 45 livres, et elle a une espèce de couronne. Alors, c'est le point de contact de la couronne sous la pierre qui touche les gouttelettes et qui permet un déplacement très, très précis, mais on influe à la pierre un roulement. En fait, on tourne la pierre du sens horaire ou anti-horaire, d'un sens ou l'autre, qui va influer. Après ça, la pierre va faire une espèce de curl, une trajectoire arrondie vers le sens qu'on a déployé là, dans le tour qu'on a donné à la pierre. Alors ça, tout ça, ces éléments-là, avec un élément stratégique, quand je vous parlais d'échecs sur un jeu d'échecs sur glace, c'est carrément ça, là. Et on a 8 pierres à envoyer par équipe. On a 8 bouts à jouer. Alors, on a donc plusieurs pierres à envoyer, mais on est 4 joueurs dans l'équipe.
Et c'est ce qui vous a séduit de savoir qui envoie la pierre en premier, puis tous les astuces qui sont derrière le choix de stratégie.
Oui, ben c'est ça. C'est ça. C'est ce qui m'a séduit, là. de voir que c'est un travail d'équipe, on est quatre, puis chacun a sa force. Hein? Le premier lanceur lance ses deux pierres, après ça, lui, il a des fonctions désignées de préparer la stratégie initiale. Alors, est-ce qu'on y va en offensive, est-ce qu'on y va en défensive, est-ce qu'on envoie les pierres à l'intérieur de la maison ou on les met en garde en avant de la maison pour préparer les futurs, la future stratégie du capitaine de l'équipe qui, lui, va lancer les deux dernières pierres pour pouvoir faire les points.
Est-ce qu'il y a un jeu de bluff qui se mêle à tout ça? Est-ce qu'on veut peut-être, par exemple, faire croire à l'équipe adverse qu'on y va pour une stratégie offensive, mais en vérité, c'est une stratégie défensive qu'on emploie?
Très bonne question. Oui. Et en fait, le bluff peut se concrétiser en attaque plus précise, dépendamment, parce qu'évidemment, comme je vous disais, chaque équipe lance 8 pierres. Alors, s'il y a un échec lors d'un envoi d'une des équipes, alors l'offensive ou la défensive peut se transformer en offensive. Alors, c'est vraiment l'équipe qui est la plus connaissante là, ou connaisseuse là, de tout ce qui se passe là, sur la glace, s'il y a des sections de la glace qui sont moins performantes ou qu'il y a des fautes dans la glace, des fois il peut y avoir, on appelle ça dans le jargon du curling, des runs. Alors il y aurait un endroit où est-ce qu'il y aurait comme une espèce de zone où est-ce que la pierre ne tourne pas, ne curl pas, la trajectoire est comme modifiée quand elle passe là. Alors là, l'équipe qui va être connaissante là, de cette faute-là, peut utiliser cet endroit-là pour créer un élément de surprise à l'autre équipe qui ne l'a pas encore
anticipé. Mm-hmm. Ouais. Puis c'est pas seulement de détecter les failles sur la glace, mais on essaie aussi, j'imagine, de détecter le comportement, les attitudes de l'équipe adverse pour anticiper leur jeu, pour pouvoir prévoir davantage de coups à l'avance.
Exact, tout à fait, vous avez entièrement raison. Si on joue contre une équipe qu'on sait que le deuxième de l'équipe n'est pas capable d'envoyer la pierre dans telle ou telle région de la glace ou n'a pas la puissance qu'un autre joueur aurait, ben on va forcer le jeu à aller à l'intérieur, comme ça, on va exiger à l'autre équipe de faire une attaque, alors faire une sortie de pierre qu'on appelle donc un take-out. Alors si on place une pierre qui marque, puis là on oblige l'autre équipe à venir faire une sortie de pierre, puis on sait que le joueur a de la misère sur ses sorties de pierre, bien là, on a des grandes chances de sortir gagnant de ce geste qu'on a forcé à faire à l'autre équipe.
Est-ce que vous avez un rôle spécifique? Parce qu'on des fois, on regarde le curling à la télévision, puis on voit qu'il y a quelqu'un qui lance la pierre, contrairement aux autres qui vont essayer d'influencer la trajectoire, ou bien c'est une rotation entre les quatre joueurs?
Non, on a des positions très, très définies. Moi, je suis le troisième, alors j'aide. Moi, je suis comme le cleaner, là. Je fais beaucoup de ménage quand il y a ménage à faire, parce que moi, je travaille dans les deux sens, là. Je suis aussi bon défensif qu'attaquant. Donc, je prépare les coups du capitaine de l'équipe qui, lui, va lancer les deux dernières pierres. Alors, là, je lance la cinquième et la sixième pierre. S'il y a du ménage à faire, je le fais. S'il y a des gardes à monter, je le fais. Alors, je suis comme le plus polyvalent de la gang. Fait que c'est le rôle comme pratiquement le plus important de l'équipe. Alors, c'est ça, c'est mon rôle. Troisième de l'équipe, je suis le vice-kip en jargon curling.
Est-ce qu'il y a des distinctions à faire entre le curling en fauteuil roulant puis le curling qui est pratiqué aux Olympiques?
Oui, ben en fait, curling debout et curling fauteuil, la différence, c'est qu'on n'a pas la brosse, nous. On n'utilise pas la brosse activement dans le rôle du jeu. Alors, la seule fonction de la brosse, nous, ce qu'elle a, c'est qu'à l'autre bout là-bas, à l'autre bout de la glace, le capitaine tient la brosse pour indiquer où envoyer la pierre. La demande se fait par la brosse. Mais on ne brosse pas la glace. Quand on brosse la glace, c'est pour permettre un peu à la pierre d'aller plus loin, d'aller plus vite, de faire un peu moins de curl. Alors nous, on n'a pas cette possibilité-là. Je ne dis pas à jamais. Peut-être qu'un jour, quand ils vont remarquer qu'on est capable de brosser, en tout cas, brosser au moins dans la maison, peut-être qu'ils vont l'ajouter, mais oui. La comparaison, nous, curling debout et curling assis, en fait, cette comparaison-là, c'est uniquement au niveau de la brosse. Le reste, c'est entièrement pareil. Tout est pareil. Il y a juste peut-être au niveau de la glisse, vous voyez les joueurs de curling debout là, partir d'un espèce de socle. Ils mettent leurs pieds dans le socle, là, puis là, ils se propulsent, puis ils tiennent la pierre jusqu'au moment où est-ce qu'ils arrivent à une espèce de ligne très foncée noire qu'on appelle la ligne de cochon, la hog line. C'est à cet endroit-là que le joueur qui glisse doit laisser aller la pierre. Alors nous, on ne glisse pas, mais on se positionne environ à 6-7 pieds de cette fameuse ligne noire-là. Et c'est là qu'on met nos freins. Nos roues sont bloquées. On a même un joueur qui nous tient parce qu'on est sur la glace.
Oui, ça glisse.
Ça peut glisser un peu, évidemment. Là. Et là, le 45 livres là, à pousser, là, on a une espèce de bâton qui mesure environ 6 pieds, qui vient faire le rôle de la main sur le manche qu'il y a sur la pierre. Alors là, on propulse la pierre à l'autre bout de la glace et il y a un mouvement. Alors c'est pour ça là, qu'il y a quelqu'un en arrière qui nous tient.
Oui, puis d'ailleurs, il y a toute une expertise sur l'équipement qui a été développé ici même au Québec. Maintenant qu'on a jeté les bases sur les règlements puis qu'on en connaît un peu plus sur la pratique du sport, on va prendre une petite pause musicale. On sera de retour dans un instant pour parler de l'évolution du sport au curling, toujours avec Karl Marquis.
Avec plaisir.
Curling Canada a annoncé la composition de son équipe qui va se rendre aux Jeux paralympiques. Aucun Québécois en fait partie. 3 joueurs ont gagné l'or à Sochi en 2014 dans l'équipe. 2 autres en seront à leur première expérience sur le niveau olympique. Parmi les provinces représentées, l'Ontario, le Manitoba, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan, mais pas le Québec. Est-ce que vous êtes déçu de voir qu'il n'y a pas de représentants québécois au sein de l'équipe paralympique, Karl Marquis?
Oui, dire non, ce serait mentir. Oui, un peu pas mal déçu. Vous avez parlé là, avant de passer à l'annonce, à la pause, que le Québec avait fait beaucoup pour le curling, en fait, changement technique et tout ça. Oui, grâce à notre coach, notre entraîneur, Germain Tremblay, qui est notre entraîneur au club de curling de Magog, Germain a apporté tellement révolutionné le sport par sa pratique, hein, les bâtons que je vous disais là, à 6 pieds. Ouais. Quand moi j'ai commencé à jouer au curling, on avait des bâtons d'environ. On avait un manche qui avait peut-être 36 pouces de long. Maintenant, on lance avec des 72 pouces, même un peu plus que ça. C'est grâce à Germain. Parce que plus le bâton est long, plus ça diminue le risque d'erreur à l'autre bout de la glace. Il a créé une espèce de... Ce qui remplace la main pour le curling, le curler debout, là, nous, en fauteuil, on peut pas mettre la main sur la pierre. Ouais. On a une espèce de manche à balai. Et au bout de ce manche à balai, là, il y a comme une espèce de système qui vient faire le rôle de la main. Alors lui, il a créé cet embout-là de façon très, très technique. Il a révolutionné le sport et est encore plus précis. Alors, toutes ces modifications-là ont été vraiment utilisées à travers le monde.
Ça s'est exporté dans d'autres pays, là.
Exactement. Et d'autres athlètes professionnels là, qui l'utilisent, là, qui eux l'utilisent pour améliorer le sport. Curling Canada a tardé avant d'utiliser ça. Et à un moment donné, on a décidé d'utiliser, nous, les athlètes québécois, pour venir sur leurs équipes, mais on n'a pas été reconnus comme étant des athlètes qui devraient faire partie de l'équipe. Même si on a été champion canadien une fois, on a été deux fois deuxième et l'année passée, on a fini troisième. On mériterait d'être là.
Est-ce que le fait que le curling, c'est un sport typiquement canadien-anglais là, qui est très populaire auprès de la population anglophone canadienne explique en partie, selon vous, le fait qu'on retrouve... On va retrouver des athlètes des autres provinces aux Jeux paralympiques et aucun du Québec?
Ben, je veux pas faire de politique nécessairement aujourd'hui, mais on s'en rend compte là. C'est une histoire de clics là, d'amis, du coach, de l'équipe nationale, puis tout ça. Fait qu'on est comme un peu, je pense, on est comme aux oubliettes pour ce cycle olympique là. Peut-être qu'on va être, on va avoir la chance d'avoir un nouveau coach un moment donné. Va-t-il être plus proche de l'est du pays? Les Maritimes sont pas représentés, le Québec est pas représenté. Ça a toujours été Ontario et un peu plus là, vers BC. Mm-hmm. Mais c'est ça. Je peux pas vous dire, mais c'est comme ça. C'est pas comme le curling debout. Le curling debout, c'est très, très, très simple et c'est le plus équitable. Tu as une équipe qui démontre des performances, qui gagne des points sur la scène internationale et qui, au niveau national, figure au niveau du ranking en tête de liste, ben c'est lui qui va représenter le pays pour le prochain 2 ans, donc championnat du monde, championnat olympique.
Okay.
Ça, c'est debout. Nous, en fauteuil, il y a une vingtaine d'équipes, grosso modo, à travers le pays, puis c'est encore Curling Canada qui va décider, lui, qui veut sur l'équipe.
C'est un choix arbitraire pour créer une espèce de melting pot des meilleurs joueurs.
C'est ça.
Mm-hmm. Alors que pour le curling olympique, on y va plus avec un système objectif basé sur des points lors des championnats.
Exact.
Est-ce que ce type d'écart-là qui se produit, parce que bon, le Canada, c'est un très grand pays, difficile de représenter les athlètes de toutes les régions, mais est-ce que vous qui avez pratiqué d'autres sports, pas juste le curling en fauteuil roulant, vous avez ressenti cet écart-là dans d'autres disciplines comme en athlétisme?
Je peux pas dire non. En fait, hein, oui, en athlétisme, on l'a ressenti un peu aussi. Puis on entend hein, à l'annonce des jeux, à l'annonce des équipes, à l'annonce des équipes de soccer, de hockey, pis tout ça. Il y a toujours un peu de. Il y a beaucoup de non-dits aussi. Hein, les gens veulent pas se mettre le pied dans la bouche puis nuire à leur carrière amateur. Fait que ouais, mais là, moi, j'en ai vu d'autres. Hein. Ça fait plusieurs années que je fais du sport. Fait que je suis un peu moins gêné d'en parler là, mais c'est un problème qui est vraiment, là, vous feriez un sondage caché là, avec plusieurs athlètes là, à travers le pays, tout sport confondu, puis tout handicap confondu, le sport debout, sport assis, vous auriez des belles surprises. Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup là, de politique à l'intérieur des créations, là, de sport d'équipe. Hein, je parle de sport d'équipe, surtout.
Sport individuel, c'est plus facile de mesurer l'un versus l'autre, puis ça tend moins à créer des clics, on a l'impression.
C'est ça.
La solution passerait certainement par une plus grande représentation dans les institutions décisionnelles, comme à l'époque de l'athlétisme, il y avait Donald Royer qui était là, puis ça a permis l'émergence de super vedettes comme Chantal Petitclerc. Est-ce, à quel point ça joue un rôle clé, le fait d'avoir des Québécois qui sont représentants dans les institutions décisionnelles?
Je pense que ça rend un peu plus, ça gêne un peu plus là, les choix des gens là. En fait là, j'aurais bien vu là qu'on laisse faire une Chantal Petitclerc ou un André Vigée là, qu'on le laisse sur la ligne de côté quand c'était des athlètes de haut niveau puis tout ça. Fait que oui, d'avoir quelqu'un à la fédération, un représentant du Québec qui serait comme actif au niveau mondial ou au niveau canadien, je pense qu'il y aurait une gêne un peu plus grande dans le choix d'athlètes. Mais pour rendre ça facile, hein, parce que c'est des fonctionnaires là, au niveau sportif, là, fait que pour rendre ça plus facile, pourquoi pas aller simplement dans... Hein, tu marques des points, puis tu te qualifies par les points, c'est clair, net et précis, c'est noir sur blanc en début d'année ou en début de cycle de 4 ans. Ton équipe fait réussi à faire les critères de sélection, ben bingo, t'es sélectionné. Un peu comme en athlétisme, là. Tu fais un standard au 100 mètres, si tu fais un temps en bas de 15 secondes, t'es sélectionné pour être admissible sur l'équipe.
Ça éviterait les apparences de favoritisme.
C'est ça.
Mm-hmm. En terminant, Karl Marquis, qu'est-ce qu'on entrevoit pour l'avenir du curling en fauteuil roulant au Canada, mais plus précisément au Québec, puis j'aimerais que vous me parliez notamment du processus de recrutement pour aller chercher des nouveaux athlètes. Il y a un phénomène assez particulier dans cette discipline, c'est qu'on tend à aller chercher des retraités d'autres sports.
Oui, ben en fait, je c'est un bel exemple.
Ouais.
En fait, oui, effectivement, parce qu'évidemment, hein, quand on est jeune, on est actif, on est tout, c'est plus sport cardio puis tout ça. Fait que oui, c'est plus ceux qui sont un peu en mode là, je quitte le sport, mais je veux pas réellement le quitter. Alors ah oui, il y a le curling, je pourrais faire un peu. Puis là, le monde évidemment tombe en amour. Alors c'est l'essayer, c'est l'adopter, parce que c'est plus qu'un sport non cardio. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment à développer. Mais oui, vous avez entièrement raison. On prône, on regarde surtout, on porte nos yeux surtout sur les anciens athlètes, parce qu'évidemment, c'est un sport qui peut se pratiquer, comme tous les sports, de façon très, très récréative, très, très loisir. Mais il y a place aussi pour ceux qui veulent pousser ça plus loin puis représenter le pays aux prochains Paralympiques. C'est possible. Alors, j'invite tout le monde à venir essayer ce sport-là. Parasport peut vous informer, ou directement Curling Québec. Curling Québec debout peut vous aiguiller, ou sinon, via le défi sportif, là, Maxime Gagnon peut vous aider à nous contacter ou quoi que ce soit, là, sans problème. Alors, j'invite tout le monde à venir essayer ce sport-là, ou regarder durant les Paralympiques ou durant le prochain championnat national qui va avoir lieu en Alberta en mars prochain, venir regarder un peu ce que ça a l'air.
Et d'ailleurs, pendant les Jeux paralympiques, on va pouvoir entendre votre voix à la description de la web diffusion des matchs?
Oui, Société Radio-Canada, du 8 au 18 mars, ce sera les Paralympiques, et on espère que nos athlètes canadiens pourront performer et remporter l'or comme le dernier jeu. On le souhaite pour eux.
Et on rappelle les trois voies, donc si on veut s'inscrire, on peut passer soit par le défi sportif, soit par Curling Québec ou encore par Parasport. Eux vont pouvoir nous orienter vers la bonne porte d'entrée pour se joindre à ce sport qu'est le curling en fauteuil roulant, qu'on a aujourd'hui appris un peu à démystifier grâce à Carl Marquis. Merci beaucoup, Carl.
Merci à vous, M. Breton. Au plaisir.
Un grand plaisir. Le Canada, donc, qui va tenter de décrocher une quatrième première position consécutive aux Jeux paralympiques en curling en fauteuil roulant lors des prochains Jeux paralympiques. En fait, le curling en fauteuil roulant a été présenté sur la scène paralympique, a fait son arrivée sur la scène paralympique en 2006. Depuis ce temps-là, il y a eu trois Jeux paralympiques d'hiver et à chaque fois, le Canada a terminé avec l'or. Ce sera les quatrièmes Jeux, donc, qui vont débuter du 9 au 18 mars, qui vont mettre en scène cette discipline qui, on le rappelle, est mixte. C'est le seul sport d'hiver où il y a autant des femmes et des hommes dans la même équipe, deux hommes et deux femmes de chaque côté. Et on rappelle que notre invité Carl Marquis va assurer la description des matchs lors de la web diffusion pour Radio-Canada. Moi, je vous reviens dans un instant avec quelques nouvelles en bref pour terminer l'émission. Natation Canada a nommé 11 paranageurs sur l'équipe des Jeux du Commonwealth 2018, laquelle sera la plus grosse équipe intégrée de l'histoire de la natation canadienne. Le groupe qui se rendra en Australie en avril comporte 8 membres de l'équipe paralympique de Rio 2016. La quadruple détentrice de records du monde, porte-drapeau et quadruple médaillée à Rio est la tête d'affiche de l'équipe, qui comprend aussi les médaillés de Rio, Katarina Roxon et Tess Rutilfel. Je sais pas comment le prononcer. Morgan Bird et les médaillés d'or de Rio Rivard, Aurélie Rivard et Roxon ont représenté le Canada aux Jeux du Commonwealth de Glasgow en 2014. Elles se joindront à la championne du monde et détentrice d'un record du monde, Kylie Massey, à la championne olympique Penny Oleksiak et plusieurs autres pour un total de 37 athlètes. La compétition aura lieu du 6 au 11 avril au Gold Coast Aquatic Center. L'entraîneur du Centre de haute performance Québec, Mike Thompson, se joindra à l'équipe. Thompson entraîne 5 des 11 athlètes et offrira son expertise en paranatation aux côtés de l'entraîneur senior du programme paralympique Vince Miskuska, qui fut nommé sur l'équipe en septembre. La natation sera bien représentée au jeu. La légende paralympique Benoît Huot n'y participera pas car ses épreuves ne sont pas offertes, mais il sera quand même là en tant qu'aide-chef de mission pour l'équipe canadienne. « Ça va bien également du côté du ski para-alpin. À 50 jours du début des Jeux paralympiques d'hiver 2018, les champions du monde canadiens Mark Marcoux et son guide Jack Leitch semblent prendre leur rythme à temps pour être au sommet de leur forme sur les montagnes coréennes. Marcoux de Sault Ste. Marie en Ontario et Leitch de Calgary ont gagné la médaille d'argent en slalom masculin pour la déficience visuelle jeudi, ce qui est leur deuxième podium de la semaine. Ils ont terminé deuxième lundi dans le slalom géant. Le deuxième SG de mardi et le slalom de mercredi ont été annulés à cause des mauvaises conditions climatiques. Il y a eu 3 Canadiennes parmi les 10 premières dans la course féminine. Marcoux s'établit quant à lui comme une des meilleures vedettes montantes du ski paralympin aux Jeux paralympiques de Sochi 2014. À 16 ans, le plus jeune membre de l'équipe, lui et son guide à l'époque, Robin Fémy, ont obtenu une médaille d'or en slalom géant et 2 de bronze en descente en super G. La prochaine étape du circuit aura lieu du 21 au 26 janvier en France, suivi par la finale de la Coupe du Monde du 7 au 11 février en Colombie-Britannique. Les Jeux paralympiques auront lieu, on le rappelle, du 9 au 18 mars. De son côté, Alexis Guimond du Québec est monté sur la 3e marche du podium du slalom géant. C'était en Suisse lundi dernier. Il s'agit d'un premier podium cette saison pour le jeune homme originaire de Gatineau qui évolue dans la classe des athlètes en position debout. Guimond a cumulé un temps de 1 minute et 45 secondes 10 dixièmes au terme des 2 descentes pour finir derrière un Suisse et un Autrichien. J'avais une bonne tactique dans le parcours et mon choix de ligne était très bon, ce qui m'a permis de conserver et même de générer de la vitesse sur les plats, a expliqué Guimond. Mon début de saison a été difficile car je n'avais pas terminé d'épreuve, sauf une de slalom. Je suis fier de mon résultat, mais pas entièrement satisfait. Cyclisme Canada a le plaisir d'annoncer un accroissement important de ses programmes de la relève en paracyclisme grâce à la mise en place des programmes axés sur la relève dans l'Est et dans l'Ouest du Canada. Les athlètes canadiens de paracyclisme figurent parmi les meilleurs au monde et a remporté le nombre incroyable de 11 titres mondiaux sur les routes et sur pistes en 2017. Cette initiative axée sur la relève va garantir que les paracyclistes canadiens vont contribuer à obtenir des résultats au plus haut niveau au cours des prochaines années. J'ai oublié de le mentionner, mais le programme dont je faisais mention sera basé à Bromont, au Québec, et 9 athlètes y travailleront sous la houlette de Guillaume Plourde, entraîneur de la relève pour l'Est du pays. Les athlètes profiteront aussi sur une base régulière des installations du Vélodrome du Centre national de cyclisme à Milton, en Ontario. C'est ce qui conclut cette émission aujourd'hui. J'ai beaucoup appris. Je suis très heureux d'avoir pu parler avec Karl Marquis, et je vous rappelle que ce sera sa voix qu'on va entendre lors des webdiffusions des matchs de curling en fauteuil roulant lors des Jeux paralympiques de Pyeongchang sur le Facebook de Radio-Canada. La semaine prochaine également, 25, 26 et 27 janvier aura lieu à Montréal le tournoi invitation de goalball. Je suis en contact en ce moment avec Nathalie Chartrand de l'Association sportive des aveugles pour voir si on peut obtenir une entrevue avec elle et en apprendre plus sur ce tournoi. On sait que l'équipe de goalball est en préparation pour les prochains Jeux paralympiques de 2020 qui vont avoir lieu à Tokyo. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, gardez le sourire.